c'est le moment de reprendre la question de l'épistémologie des SHS, sous-entendu des sciences sociales. Quels sont les modèles scientifiques des sciences sociales? Les modèles scientifiques des sciences sociales, je vous l'ai indiqué, pour la plupart d'entre eux, ce sont de vieux, guillemets certains, de vieux modèles scientifiques. Des vieux modèles scientifiques qui datent de quand? Bon, je l'avais dit dans ma présentation hier, du 19e siècle. Qu'est-ce qui est censé donner de la scientificité aux sciences sociales? Qu'est-ce qui leur donne de la scientificité? Quel est l'outil qu'on utilise le plus couramment en sciences sociales? Le questionnaire, merci. D'accord? Oui ou non? C'est bien le questionnaire qu'on utilise. On lui a adjoint quoi? Les entretiens, bien sûr. Et puis un certain nombre d'autres outils dont on a parlé, dont on reparlera. Mais celui qui est le plus utilisé, c'est le questionnaire. Sous toutes ses formes, certes, mais c'est le questionnaire. La question que je vous pose, comment est-on sûr de la scientificité des questionnaires? De l'exploitation qu'on en fait quand on les a administrés? C'est une vraie question, c'est logique ça. Qu'est-ce qui fait que des sciences qui utilisent des questionnaires sont scientifiques? Voilà une belle question d'épistémologie. Mais qu'est-ce qui fait que c'est scientifique? On est allé chercher qu'est-ce qui était vraiment scientifique dans le traitement des grands nombres, dans le traitement des cas en quantité assez importante. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Peut-être que je vais vous le révéler. Il me semblait que tu avais un petit peu dit que ça ne fait rien, on va vous le révéler. D'où vient le modèle de la scientificité des sciences sociales, de la sociologie en particulier, au travers des questionnaires? Tout simplement parce que on a mis au cours du 19e siècle les outils statistiques et stats. Donc mathématiques et statistiques qui ont permis de faire des calculs tout à fait sérieux, tout à fait scientifiques. Mais sur quoi au 19e? C'était pas pour parler de sociologie, de sciences sociales, c'était pour parler de quoi? Les gaz, la thermodynamique, l'étude des gaz. Et là, c'était une révélation pour vous. Ce qui donne la scientificité des sciences sociales au travers des calculs sur les questionnaires, c'est les modèles mathématiques et statistiques développés au 19e siècle sur la thermodynamique et ce qu'on appelle la cinétique des gaz. Les molécules qui se rencontrent, qui se tapent les unes dans les autres. Un gaz chaud, un gaz froid, etc. On traite, vous savez, des millions de molécules, des milliards de molécules. On a besoin d'outils mathématiques pour ça. Et ces outils mathématiques ont été mis au point par un physicien qui s'appelait Boltzmann, autant que vous sachiez. Et ce Boltzmann, c'est lui qui a mis au point les équations qui permettent de traiter de ces grandes quantités de molécules. Et les sciences sociales considèrent que finalement, les individus, on va faire des calculs sur eux comme des molécules. Allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait comme outil d'investigation scientifique sur les questionnaires? Qu'est-ce qu'on prend? On fait des moyennes. Donc c'est pas trop compliqué, soyons plus exigeants, on fait quoi? Trouvez-vous vos classiques?
Des graphiques.
Ouais. Oui, des graphiques, d'accord, mais c'est un peu vague. Il y a bien des outils mathématiques quand même, non, que vous avez dû apprendre à manipuler, qui donnent la scientificité à ces bons sens de sciences sociales, et qui s'appellent, une fois qu'on a fait les moyennes géométriques, les moyennes arithmétiques, ça c'est fastoche, les moyennes pondérées, si vous voulez, on fait des trucs mieux, non? Les écarts-types, ça veut dire rien? Ah, ça vient d'où l'écart-type? Cinétique des gaz, 19e siècle. On fait quoi quand on est un peu plus savant que les écarts-types? Pour savoir si ce qu'on observe n'est pas seulement le résultat du hasard. Pour séparer ce qui fait sens du hasard. La variance, ou la covariance. Vous connaissez la variance? Vous en avez posé? Ça vient d'où la variance? Cinétique des gaz, thermodynamique, 19e siècle, Boltzmann. Et si vous êtes très très fort, et qu'on veut encore mieux séparer une observation des autres observations, et des corrélations qu'on fait entre, pour dire que ce n'est pas le hasard, on a un autre outil, peut-être que lui, vous ne l'avez pas pratiqué, parce qu'il est coriace, il porte son nom mathématique d'ailleurs, on n'a pas changé de nom, le qui-deux. Le qui-deux, ça veut dire quelque chose, ça s'écrit C-H-I-2, le qui-deux. Et ça vient d'où le qui-deux? Cinétique des gaz, thermodynamique, Boltzmann, 19e siècle. C'est une révélation. D'où le fait que tous les programmes statistiques, et y compris Excel, qui n'est pas vraiment un programme statistique et scientifique, même Excel, quand on va dans la partie basse de données d'Excel, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez très facilement les écarts. Il y a une fonction écartée dans Excel, comme on a dans tous les logiciels spécialisés qui s'appellent, rappelez-moi les noms.
Modalisa.
Il y en a un, Modalisa, et son concurrent. Sphinx. C'est les deux, bah c'est normal, il y en a les deux qui sont bagarres, c'est plus marrant quand même, non? Donc les deux concurrents sont Modalisa et Sphinx, c'est-à-dire dans l'ordre d'apparition à l'écran. Chronologique, ça s'appelle plutôt Sphinx, c'est numéro 1, et Modalisa qui apparaît après. Puisque Modalisa est une version simplifiée, plus adaptée aux chercheurs, un peu débutants, que Sphinx, c'est un gros outil très compliqué dans lequel il ne faut vraiment pas se planter pour ce qu'on veut. Donc ces outils, Modalisa, Sphinx, pour les outils spécialisés, compliqués, Excel, pour les outils généralistes et accessibles à tous, offrent bah, au moins l'écart type, au moins la variance et la covariance. Et quand on est très très costaud, on peut aller jusqu'au fameux qui-deux. Bon, et puis on a aussi tous les outils, de corrélation, qui peut s'appeler comment dans les analyses statistiques? L'analyse multifractionnaire. Ça ne dit rien. Ben, ce sont d'autres outils, analyse multifractionnaire. Abraham Wall en parle, qui sont des outils qui ont scientificisé les sciences sociales. Mon idée, c'est celle-ci. Je crois qu'à présent, vous avez compris. Qu'est-ce qui donne de la scientificité à ces sciences sociales, en particulier au travers de l'outil questionnaire? Réponse. Les concepts mathématiques inventés au 19e siècle pour la thermodynamique, tout ce qui concerne l'analyse des molécules de gaz, ces outils-là, eh ben, on les a repris dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est-à-dire probablement 100 ans plus tard, on les a repris pour rendre scientifiques les sciences sociales. Amusant, non? Donc ces vieux modèles scientifiques, eh ben, ils sont toujours là. Si on laisse un petit peu de côté les questionnaires, qui sont quand même les plus représentatifs, on voit aussi qu'on utilise des modèles dits cartésiens. On viendra sur Descartes, donc je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui sur Descartes, hein, mais en particulier les modèles qui cherchent à isoler des variables, à étudier comment les variables se comportent les unes par rapport aux autres. On est dans des modèles hypothético-déductifs. C'est-à-dire, je pose une hypothèse et j'essaye de valider cette hypothèse. Et pour valider cette hypothèse, bah, je prends tous les moyens possibles. C'est d'ailleurs ce qu'on fera dans mon mémoire. Hein. Vous allez poser des hypothèses, j'ai bien dit. Il faudra trouver une méthode, une méthodologie. Et cette méthode vous permettra de valider ou pas, invalider d'ailleurs, invalider une hypothèse. On est bien dans l'hypothético-déductivité. Qui a inventé l'hypothético-déductivité? Les mathématiciens grecs. Les grands mathématiciens grecs. C'est eux qui ont inventé l'hypothético-déductivité. Vous voyez, je vous fais deux trucs d'épistémologie. L'épistémologie, histoire des sciences, pourquoi je cite un certain nombre de précédents, et l'épistémologie au sens surgissement, naissance, émergence des grands concepts scientifiques. Donc l'hypothético-déductivité, c'est lorsque les Grecs ont. Ce sont, il faut sortir de la pensée magique et il faudrait qu'on arrive à émettre une hypothèse. Un des plus grands était Archimède. Archimède a mis un certain nombre d'hypothèses, dont le fameux principe d'Archimède que tout le monde connaît, au moins dans sa version amusante. Et ce principe, c'est Archimède qui l'a émis comme une hypothèse et a fait ensuite des expériences et ou des calculs pour pouvoir le prouver. Je vous rappelle que les Grecs, Parménide et compagnie, avaient établi que la Terre était ronde. Ils connaissaient la dimension de l'équateur. Donc 40 000 km, pas les kilomètres, bien sûr. Mais ils le savaient. Bon, ils l'ont fait comment? Ma réponse par hypothético-déductivité, pour observer les étoiles, par exemple. ceci remonte les modèles hypothético-déductifs, les Grecs. Alors bien sûr, après, on a eu tout un travail au cours des siècles, des millénaires qui ont suivi, enfin, un travail de réflexion considérable jusqu'à ce que Descartes clarifie les choses. Leibniz, de son côté, le clarifie. Enfin, on a un certain nombre de très grands penseurs, de très grands savants, je reprends ce mot. Quand je dis savant, c'est quand c'est vieux. Hein, aujourd'hui, on dit scientifique, comme vous savez. Donc, ces savants, avec tous les guillemets que vous voulez, ont établi un certain nombre de grands principes. On est aussi dans cette épistémologie des SHL, dans les modèles déterministes, prédictifs. Et ça pose la question, à quoi sert la science ? Après avoir dit comment est-ce qu'une chose est scientifique, réponse parce qu'on prend des modèles scientifiques forgés ailleurs, je pose la question, mais au fond, ça sert à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a inventé la notion même de science ? Réponse, pour pouvoir essayer de prévoir. La science sert à prévoir. L'astronomie qui est née dans l'astrologie. Je vous rappelle que l'astronomie, ses origines, c'est l'astrologie. Et que toute la partie de l'astrologie qui s'occupe du mouvement des planètes est très scientifique, il n'y a pas de problème. Là où ça diverge, c'est quand de ce mouvement des planètes est un travail tout à fait scientifique, on en déduit des comportements individuels des êtres humains. Là, on est dans un autre domaine. Mais quand on vous dit qu'il y a la conjonction de telle planète avec telle autre, il est vrai qu'il y a une conjonction. De la dire que ça va influer sur votre psychisme et compagnie, c'est une autre paire de manches, on ne va pas en parler ici, bien sûr. Bon, donc, lorsque on a des théories qui vont prédire, on sait aujourd'hui prédire en astronomie des tas de choses, on sait prédire en physique des tas de choses, en chimie on sait prédire des tas de choses, en médecine peut-être qu'on sait prédire, ça vaut mieux, non ? Hein ? Prédire ou prévoir ? J'en prends les deux verbes alternativement, ils ne sont pas tout à fait équivalents, mais bon. Donc le but de toute science, c'est de prévoir. Et pour ça, il faut mettre au point des outils qui vont permettre de prévoir, d'où ce que vous indiquez, le caractère déterministe prédictif. Ça se traduit par cette phrase, elle aussi, inventé par les Grecs, mais surtout exprimé par Aristote, pour être précis. Les conditions de départ déterminent les conditions d'arrivée, ce que je dis depuis le début. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental au plan philosophique. Et votre positionnement épistémologique, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes dans un modèle déterministe ? Et il y a des gens qui sont dans des modèles complètement déterministes. Regardez... l'économie. Aujourd'hui, on agit sur tel truc pour susciter tel effet. On est bien dans le déterminisme absolu pour l'économie, non ? On se rend compte très souvent qu'on se trompe, d'ailleurs. Mais il n'empêche que les économistes vous disent bien, regardez ce qu'a fait le MEDEF pour repousser la taxe sur les résultats d'exploitation des entreprises. Ils ont pris des modèles mathématico-logiques pour dire si vous déclenchez la taxe en question, ça va se traduire par tel et tel effet, ça va être une catastrophe économique, donc on arrête la taxe. On est bien dans du déterminisme, non ? On est bien dans du prédictif et du semi-prédictif. Alors quand je dis semi, je mets un peu de liberté. Quand on a toutes les variables d'un problème, je répète, quand on a toutes les variables d'un problème, c'est pas dur d'être déterministe. Pour les sciences dures, on arrive à réunir beaucoup de variables. Pour la loi de Newton, la gravitation universelle, je peux tout savoir. Si je prends n'importe quel objet, ce merveilleux livre d'Abraham Moll, si je le lâche, je peux tout calculer, sa trajectoire. Si je le lance avec telle force et telle direction, je peux tout calculer, ça donne la balistique. Si j'ai assez de variables, je peux tout calculer. Le problème, c'est que je n'ai pas toujours suffisamment de variables. Et si je n'ai pas suffisamment de variables, eh bien, ça devient du semi-prédictif. C'est-à-dire que, en fonction du nombre de variables que j'ai à ma disposition et en fonction de l'importance relative de ces variables par rapport aux autres, mon modèle sera très prédictif, très efficace ou faiblement prédictif. On est bien sur ces modèles qui cherchent toujours à prévoir, à prédire. Alors, ceci doit peut-être vous perturber un petit peu en disant, mais s'il en est de même de toutes les sciences. Prenons, il y a des historiens. Ici, à quoi sert l'histoire ? À quoi ça sert ?
À étudier le passé pour prédire l'avenir.
C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est bien la finalité de l'histoire. Mieux on connaît le passé, Nous, on connaît pourquoi tel événement, etc. Ça va permettre de dire, eh ben, on va essayer. Il y a des grands historiens, le plus grand historien des cycles, qui dit qu'il y a quelque chose de cyclique dans l'histoire. Rappelez-moi son nom, c'est un français. Toynbee. Non ? On ne vous a pas posé de Arnold Toynbee ? Grand historien américain sur les cycles. Disant que l'histoire se répète, mais sous des formes légèrement différentes. C'est une grande théorie. Mais les éléments, peut-être pour, peut-être contre, on a parlé l'autre jour de la théorie de Chomsky pour dire sur la langue machin, mais là, c'est complètement planté. Toynbee, il y a peut-être des éléments qui montrent qu'il n'y a pas tort. Donc on a, en tout cas, dans l'histoire, une finalité qui est d'essayer de... alors, le mot prédire l'avenir est toujours un peu mieux. Hein, on va dire envisager, prévoir l'avenir, et puis c'est peut-être une vocation sociale de peut-être ne pas recommencer les erreurs du passé. Hein, c'est-à-dire faire en sorte que le nazisme ne puisse pas se renaître dans je ne sais quel pays en fonction de ce qu'on a appris pour ce qui s'est passé en Allemagne en 2030. Voilà, c'est là c'est une vocation de l'histoire et des textes merveilleux. Bon. Donc, même histoire, qui est le passé, c'est pour envisager de l'avenir. Nous sommes d'accord. Vous voulez qu'on prenne d'autres sciences sociales, et pour voir si elles cadrent dans ce schéma. J'ai pris l'histoire, la sociologie, est-ce qu'il faut que je la prenne? Bon, c'est évident, non? La finalité de la sociologie, dans sa finalité de ses fondateurs. Les fondateurs de la sociologie contemporaine, c'est qui, en fait? Quel nom vous donnez dans les fondateurs de la sociologie, dans son exception contemporaine, hein, contemporaine du XXe siècle? Ceux qui ont fondé la science sociologique. Comment? Ouh là là. Non, mais si vous le dites, ça révèle bien sûrement quelque chose, peut-être.
Ah oui, j'ai appris ça.
C'est évidemment pas bon Dieu. Surtout pas bon Dieu, non, parce qu'il est sociologue, bien avant bon Dieu. Vous voyez, c'est marrant, on en a public. Bon, Infocom, vous avez fait quand même de la socio à haute dose, un public de socio qui a fait de la socio à plus haute dose qu'à Infocom, par définition.
Après, ça dépend de nos profs qui sont passés nous d'accord. On ne sait pas. En tout cas, eux ne le savent pas.
Formel. Sociologie, ce qui a fondé la science sociologique, les méthodes sociologiques. Il y en a un qui est un nom composé, Lévi Brulle. Ça dit bien quelque chose quand même.
Lévi quoi ?
Lévi Brulle. B-R-U-H-L. Lévi Brulle.
Même pas si tu dis.
Ah d'accord. Ouais ! Bon, Lévi Brulle. Pas de problème.
Lévi Strauss, oui.
Ah non, mais c'était bien avant. Bien avant. Bon, bref, je ne vais pas faire un tour de toutes les disciplines. Prenons la géographie pour sortir de... Il n'y a pas de géographie ici. Bon. À quoi sert la géographie? Ouais, mais c'est pas une idée qui va bien loin, hein, à connaître le territoire. Ben d'accord, une fois que je connais le territoire, je suis vachement content. C'est pourquoi d'ailleurs, on fait soit l'association histoire-géographie, même si l'histoire géographie, c'est toujours très différent. Hein, à part le collège de lycée, bien sûr. Mais... Non, mais on ne parle pas du collège du lycée, on parle de structuration d'une discipline. La géographie, ça sert aussi à prévoir l'avenir d'un pays. C'est d'ailleurs pourquoi la géographie est même très différenciée en géographie physique, en géographie économique, en géographie politique. Et donc, il y a bien une question de crédibilité. Si je dis par exemple en France, on a beaucoup de réserves de gaz de schiste, c'est pas une manière de prévoir l'avenir. Là-dessus, la géographie politique va me dire oui, mais il se trouve que la représentation politique en France en ce moment est contre le gaz de schiste, blablabla. Bon, mais voilà. Donc je peux prévoir un certain avenir économique de la France par rapport à ses ressources en matériaux fossiles, en énergie fossile à partir de ses stocks en gaz de schiste. Vous voyez ? Donc ça sert aussi à ça, la géographie. Et puis les rapports de force entre les différents pays. De dire qu'aujourd'hui nous sommes tant de millions de Français et que les Chinois ils vont baisser, ils sont à 1 milliard d'eux, mais ils vont cesser d'augmenter, les Indiens aussi, enfin voilà, c'est bien ça, non? Là, ce serait la branche de la géographie qui s'appelle la démographie. Vous voyez? Donc les sciences en général cherchent à prévoir. Alors certaines, je répète ça, c'est très important que vous ayez bien en tête. Quand je connais toutes les variables d'un problème, je peux avoir une prévisibilité absolue. Quand j'envoie un satellite artificiel, je dis machin, j'ai une prévisibilité absolue, je sais sur quelle orbite mais qui tourne en temps de jour, etc. Tout est prévu parce que je connais toutes les variables. Pour ce qui concerne la sociologie, l'histoire, la géographie, l'économie et le reste, je ne connais pas toutes les variables. Donc, mes modèles de prédictifs totalement déterministes deviennent semi-prédictifs. Mais en tant que chercheur, je cherche à donner de la prévisibilité. Alors parfois c'est risible. Allez, on va cogner un petit peu. La climatologie. La climatologie. Vous voyez le dernier rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Augmentation d'ici 2100 entre 0,5 et 5 degrés. Super précis. Bon, là, la prévisibilité, ça veut dire quoi? Il n'y en a plus. Je ne parle même pas du rôle du CO2 sur le réchauffement et je ne parle même pas du rôle de la pollution atmosphérique, type voiture, sur le CO2. Enfin, vous voyez, on est sur des crans divers, mais pour ces gens-là qui sont dans les modèles déterministes, alors il n'y a pas de problème. Ils pensent qu'ils ont toutes les variables et avec toutes les variables, ils passent. Ça éclaire ce débat sur climatologie. Ces gens-là considèrent qu'ils ont toutes les variables. Ayant toutes les variables, ils sont dans un modèle complètement prédictif. D'où les cris d'alarme sur limiter la consommation de carburant fossile, limiter, etc. Ceci, cela. Je ne vous prononce pas s'ils ont tant raison pour le moment. J'essaie de bien vous montrer qu'il y a derrière ça un gros débat épistémologique. Et comme toujours, derrière le débat épistémologique, il y a un débat philosophique. Et pour vous, c'est ça, pour votre mémoire, c'est ça, pratiquement. Est-ce que vous êtes dans un carré, dans une orientation de pensée déterministe ou semi-prédictif, ou est-ce que vous êtes ailleurs et autrement? On va dire aussi que, cette logique a érigé le principe du tiers exclu. Et là, on retrouve Aristote et Descartes, mais dans un grand ordre chronologique, bien sûr, largement avant Aristote. Le tiers exclu, ça s'énonce comment? Bah, la négation, la négation. On a besoin de ce principe logique pour dire que si je fais la négation d'une négation, je redécouche sur l'affirmation. Ce qui n'avait pas de soi avant qu'Aristote exprime. Ce qui d'ailleurs va poser problème dans une épistémologie moderne.
C'est peut-être là aussi une des racines, une des sources à nous, parce que nous, Français, on se tape à la fois l'héritage d'Aristote, comme beaucoup d'autres, bien sûr, mais aussi de Descartes. Alors, si j'additionne le poids d'Aristote à celui de Descartes, il n'est pas étonnant que nous soyons, peut-être plus fortement que d'autres peuples, dans le tiers exclu. Ce qui entraîne à la dichotomie, ce qu'on a déjà dénoncé plusieurs fois. De dire, chez nous, on aime bien les grandes oppositions. Alors, en face de ces vieux modèles scientifiques, attention, quand je dis vieux, c'est pas pour dire périmé. Peut-être qu'il faut que je le reprécise. Hein. On aurait tendance peut-être à penser vieux égale dépassé, périmé, au revoir. C'est pas du tout ce que je veux dire. Parce que ces vieux modèles, ils restent toujours valables. Si je prends cette trousse et que je me la balance sur mon visage, le vieux modèle prédictif, il fonctionnera toujours. On la recevra en pleine bronche, si jamais j'ai la bonne balistique. Donc ne venons pas dire que ces vieux modèles sont caduques. Ils ne sont pas du tout caduques. Je le précise parce que parfois, ceux, je veux dire du camp d'en face, la systémique, ont tendance à présenter les choses de cette façon, qui est tout à fait caricaturale et scientifiquement erronée. Alors, ceux du camp d'en face, comme je viens de les présenter, c'est ceux qui appartiennent à cette grande approche systémique. Je crois que je vous ai donné le nom déjà du fondateur de ça, c'est bon de le répéter. En L3, j'avais un cours sur la systémique complet. Rien ne vous empêche d'aller faire. Faudra que je renvoie les. Qui c'est qui m'a mis un mail charmant? Ouais, c'est vous, merci. Hein. J'ai pas le temps. Mais c'est bien, vous avez fait un boulot formidable. Je vous félicite. Ouais, non, mais. Je peux vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai fait des copier-coller d'un site à un autre. Mais ça, c'est. Qui connaît Dreamweaver ici? Vous? Bon. Vous connaissez les histoires d'adresses relatives et d'adresses absolues? Landry? Voilà. Donc c'est une histoire comme ça. Et c'est quand mon Donc il faut que je remette les bonnes adresses parce qu'elles étaient en absolu. Elles devraient dû être en relative. C'est ça le problème. Mais bon, il faudra donc que je remette un certain nombre de liens qui ne vont pas, sauf qu'il faut que je me prenne mon débrouilleur, machin. Voilà. Donc c'était juste pour dire que certains liens. Ceci dit, je voulais dire, pour certains des liens, quand ils ne marchent pas sur la partie M1, allez voir dans la partie, je parle de la conception médiatique, machin, allez voir dans la partie M3, eux, là, ils marchent. Mais ceci dit, il faudra que je fasse la mise à jour, bien sûr, et que je mette les bons liens. Mais en étant musée, vous allez chercher, vous pouvez le retrouver au moins dans la partie M3 pour ceux qui se trouvent aussi en M3. Parenthèse terminée, c'est ça, si vous cliquez sur les liens, et c'est vraiment très bien, encore merci de l'avoir signalé. Alors, je disais que, comme un cours de L3 sur la théorie systémique vous le montre, le fondateur Ludwig von Bertalanffy, dont on a déjà parlé avec 2F et un Y, avait une double compétence en sciences dures, physique d'une part, et en biologie, et qu'en ayant cette double compétence exceptionnelle en physique et en biologie, a inventé quelque chose à partir des interrogations qu'on retrouvait en physique et en biologie. C'est comme ça que la théorie systémique est née avant la Seconde Guerre mondiale, pendant, et c'est évidemment beaucoup développé à partir des années 50 et 60, avec un certain nombre de grands noms que vous verrez. Si j'avais un seul bouquin à vous faire lire pour ça, il est très facile à lire, c'est Le Macroscope. Le titre, c'est Le Macroscope. L'auteur, c'est Joël de Rosney. Rosney, R-O-S-N-Y. C'est un très grand biologiste. Il était à la retraite, mais il écrit toujours. Et Joël de Rosney, donc, a écrit Le Microscope, qui est une série de petits articles qui étaient publiés dans les magazines du style L'Express et autres. Donc, ce n'est pas une lecture compliquée. Et dans Le Microscope, il fait un peu l'équivalent de Barthes dans quoi ? Voilà, très bien, merci. Il fait l'équivalent de Barthes dans Mythologie qui familiarise un public cultivé, mais pas spécialisé avec les notions sémiologiques et sémiotiques, ok, et bien, de son côté, Joël de Rosney fait la même chose par rapport à la systémique, il donne des exemples de systémique dans ce petit bouquin qui s'appelle Le Macroscope, qui est vraiment très intéressant, et s'il ne fallait lire que quelques textes sur la pensée systémique, avant de lire Bertalanffy, qui lui est au contraire très difficile, vraiment, les bouquins de Bertalanffy sont durs, de Rosney, ça se lit très facilement et ça vous fait bien comprendre des choses. Alors, donc, année d'après-guerre, surtout, même si les fondements sont plus anciens, ces modèles systémiques, aujourd'hui l'approche systémique est répandue partout, aussi bien dans les sciences dures, en biologie bien sûr, une grosse partie de la biologie est systémique, la médecine est très très systémique, même plus que la médecine, une discipline par exemple comme l'ostéopathie, qui a mis longtemps à se faire reconnaître en France. Je vous rappelle que les ostéopathes, étaient formés uniquement en Angleterre. Il n'y avait pas de formation à l'ostéopathie en France. C'était interdit. On est dans quel pays on est ? Il fallait se former à Maidstone, au sud de l'Angleterre. Pratique illégale à la médecine sur des savoirs non appropriés. Vous savez, le côté dogmatique. Il n'y a pas qu'en sociologie que ça existe. L'être humain étant ce qu'il est, la médecine a ses bons vieux dogmatismes. Ils ont leurs équivalents de bon Dieu pour dire ça comme ça. Avec, c'est comme ça. Je sais, parce que ça, vous ne savez pas, j'ai préfacé l'an dernier un bouquin sur l'histoire de l'ostéopathie. Qu'est-ce qu'il y a de préfacé en bouquin de médecine ? Attendez, plus rien. Je suis un docteur ? Ouais, mais bon, en médecine. Pas des suites en France. Bon, tout simplement parce que l'ostéopathie est une approche systémique de l'être humain. Et vous savez bien aujourd'hui que l'ostéopathie vous soigne des tas de choses. Des douleurs, des affections qui n'ont en principe rien à voir avec un traitement des vertèbres, des machins, truc. Hein? Bon. Et si ce n'était pas admis, c'est parce que les modèles médicaux français étaient des modèles très déterministes. C'est encore nous, c'est notre caractéristique. Très déterministes. Et les médecins. Ça a changé heureusement, mais aimait bien agir sur quelques variables, les conditions de départ, conditions d'arrivée, vous voyez le truc. L'ostéopathie, elle agit sur plein de variables. Elle est systémique. Le fait que j'ai préfacé le truc. Elle est systémique. Et comme elle est systémique, forcément, on est sur des modèles qui n'étaient pas acceptés. fait que pendant de longues années, les ostéos allaient se former en Angleterre. Il y a à Saint-Étienne un collège d'ostéopathie. D'ailleurs, vous allez y travailler à Villiers Marbé?
Non.
Si, il a dû venir. Il est directeur de la communication et adjoint du centre du collège international d'ostéopathie. Et Saint-Étienne a lancé des formations à l'ostéopathie en France qui durent très très longtemps pour former un ostéopathe, c'est aussi long qu'un médecin. C'est 6 ou 7 ans. C'est très très long. Et donc, cette approche ostéopathique est une approche qui est tout à fait dans l'ordre de la systémique, au sens où on va gérer plein de variables. Alors, je vous cite l'ostéopathie, je pourrais vous citer plein d'autres choses. Par exemple, vous avez peut-être vu ça, l'orthodontie. Vous avez vu, peut-être certains d'entre vous, vous savez, les joyeuses bagues qu'on met sur vos jolies dents, puisque ça ne part pas, hein. Comme certains aussi. Voilà, bon, il se trouve que, aussi je connais bien, j'ai un grand ami à moi qui a été dans cette spécialité, c'est aussi systémique. Le traitement des dents, je vais vous dire un truc qu'on connaît depuis, enfin, je vous dirai peut-être un bon moment après, mais je ne peux pas trop vous en dire, puis le temps passe. Le traitement des dents peut améliorer, allez, c'est tout à fait drôle. Il y a des gens pour lesquels un traitement des dents supprime définitivement les sciatiques. Et attendez, quand j'ai une sciatique, j'ai mal là, vous allez me traiter une dent, mais vous n'êtes pas bien, bah si. Et la médecine contemporaine, française, s'est faite à ces choses-là, mais ça a été long. Aujourd'hui, la médecine fait des formations d'ostéopathie, c'est reconnu par le corps médical, par les autorités médicales, etc., mais il a fallu des combats d'une dizaine d'années, 30 ou 40 ans. Le gars dont j'ai préfacé le bouquin, Daniel Ferrero, il a passé toute sa carrière pour faire reconnaître l'ostéopathie en France. Il a eu passé 40 ans. Alors qu'enfin, sur la fin de sa carrière, ça a enfin été reconnu. Vous voyez, donc c'est quand même des... Et puis, et aussi, c'est pour vous montrer que ces débats âpres, Saint-Étienne et les communications sociaux n'en a pas le privilège. Hein. C'est beaucoup plus général que ça. Il ne faut pas la ramener à juste un conflit entre A et B et machin. Ça n'a aucun intérêt. C'est derrière, il y a même des débats philosophiques très intenses. Et avec presque des systèmes de croyances qui font que quand on les raconte, on les rencontre. C'est pourquoi certains disent le camp d'en face. Et ça t'est présenté comme ça à tort. Alors, on a dans ces modèles systémiques toute la logique du XXe siècle. Nous allons faire, dans ce cours de méthodo, un chapitre spécial sur cette logique du XXe siècle. Je crois vous en avoir donné un exemple, le principe d'incertitude du physicien Heisenberg, qui a donné la naissance à l'observation participante, ce que ceux qui pratiquent l'observation participante ne savent même pas. On dirait que si en socio, on ne sait pas les fondateurs de la socio en France, c'est un peu... Ouais, bon, c'est pareil. Donc nous verrons un certain nombre d'autres principes logiques. On a aussi ce qu'on appelle la logique floue. On a la théorie des catastrophes. La logique floue, c'est une logique qui n'est plus aristotélicienne, c'est-à-dire qui n'est plus l'entière et l'exclu. C'est une logique qui dit que la négation et la négation n'est pas toujours l'affirmation. Alors ça, les logiciens... Les mathématiciens qui s'occupent de la logique, ils savent le faire depuis longtemps. En maths, on a longtemps vécu sur la géométrie qu'on appelle euclidienne. Le fondateur de la géométrie est dans Euclide. C'est quoi le fondement de la géométrie euclidienne? C'est que par un point hors d'une droite, on peut mener une seule parallèle. Ça va comme rappel, c'est pas trop compliqué. On a vécu pendant 2000 ans là-dessus. Donc, jusqu'à ce que un mathématicien américain, Riemann, invente une géométrie pour dire on peut emmener une infinité, pendant qu'un russe, Lubachevsky, on a inventé une en disant on peut emmener zéro. Ah ouais? Et Euclide là-dedans? Bah Euclide dit on va en mettre une, mais il y a zéro, il y a l'infini. Vous voyez, toujours pareil, on élargit le point de vue. On élargit le point de vue. On passe d'une parallèle à soit zéro, soit une infinité. Eh bien, on est dans des logiques qui sont, c'est le nom général, logique floue. On appelle ça aussi la théorie dite des catastrophes d'un Français, René Thom, THOM, et d'un Américain, Zeeman, qui montre que, grosso modo, des petites causes peuvent générer des grands effets. Des petites causes peuvent générer des grands effets.
Vous voyez l'exemple de la théorie des catastrophes ou il faut que je vous le rappelle? C'est du domaine de la culture générale, ça.
La phrase, c'est le battement des ailes d'un papillon au Japon peut déclencher un ouragan atomique. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Avez-vous déjà assisté à la naissance d'une tornade? Moi, j'ai eu cette chance incroyable. Une petite. Non, mais c'était dans un endroit que je connais bien, dans une prairie. Avec un peu de vent, comme ça, pas un vent très fort, puis d'un coup, des feuilles ou un petit peu d'herbe, ça se met à bouger comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc? Pensez magique, tiens, c'est le dieu machin qui est en train de s'adresser à moi, qui va être touché par la grâce. Ça se met tout en bouge. Et puis ça s'arrête pas, et puis ça prend de l'ampleur. Et ça fait une tornade, qui heureusement a traversé toute la prairie en emmenant des feuilles à une dizaine de mètres, pas plus. Et puis ça s'est calmé tout seul, et les feuilles sont. Comment ce truc est né? Bah, physiquement, ça s'explique. Hein. Des courants d'air chaud, du courant d'air froid, pourquoi? Et ça s'est arrêté. Et ce qu'ont étudié Zeeman, l'américain, et Tom, le français, c'est justement les conditions dans lesquelles ça va surgir et comment ça peut influer. On le verra, ça. Hein. Ils ont modélisé des trucs très intéressants, par exemple le comportement agressif d'un chien. Ça se modélise. Comment un chien qui est gentil peut devenir agressif? Ouais, ça se modélise. Bon, donc on est sur des modèles qu'on appelle indéterministes, des modèles probabilistes. On est sur les sciences de l'imprécis, le bouquin que j'ai amené ce matin. On est sur ces modèles-là, et c'est l'apport extraordinaire de Moll, de ce point de vue, c'est de dire, pendant des milliers d'années, on a cru que la science ne pouvait concerner que les choses répétitives. De fait, vous faites de la physique ou de la chimie, le monde est facile. Vous faites une expérience, une deuxième fois, une troisième fois. 5 000, 10 000, 50 000 fois, vous allez la faire. Nous, dans les sciences humaines, si jamais je vous flanque une baffe, je peux faire cette expérience. Sur un certain nombre d'entre vous, je peux savoir ce qui va un petit peu se passer. Mais je ne peux pas, quand même pas le savoir sur des milliers et des milliers de cas, parce qu'il y a des tas d'autres interactions, des tas d'autres variables. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas, c'est... Vous voyez? Donc on n'est pas sur des modèles déterministes. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que sitôt qu'on traite de nos sciences, que moi je dis humaines, on est sur des modèles, que j'appelle d'ailleurs, des modèles non déterministes ou indéterministes. Et par rapport à ça, tout ce qu'on avait auparavant nous rend service pour une partie, on ne peut absolument pas s'en passer, mais n'explique pas tous les phénomènes qu'on peut observer dans ce qui est imprécis. Et là, il s'agit de mettre au point des méthodes scientifiques qui vont être spécialisées pour ces fameuses sciences de l'imprécis. C'est l'objet du bouquin d'Abraham Moll. Quelles seraient les méthodes scientifiques adaptées à ces sciences de l'imprécis, qui sont des méthodes qui vont traiter beaucoup de variables à la fois, qui vont traiter les interactions faibles, là où les sciences dures traitent des interactions fortes, qui vont traiter de ce qui est peu ou pas répétitif, ça c'est aussi très très important, hein. Peu ou pas répétitif, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais la certitude que le modèle qu'on a mis au point, il va très bien correspondre, parce que le coup d'après, le phénomène ne se reproduira pas de la même façon. Et qui vont être des sciences, on va dire, possédant une bonne dose heuristique, c'est-à-dire de capacité auto-acquisitive, d'auto-apprentissage. C'est des sciences qui vont se construire par le cheminement de leurs essais et de leurs erreurs. Et en prenant en compte, en modélisant les essais et les erreurs, il y aura progression d'ensemble. Voilà. Alors, juste pour votre culture perso, j'ai situé les modèles systémiques à la Seconde Guerre mondiale, un peu avant et surtout un peu après. J'oublie, ah, aussi vous avez un diaporama là-dessus, j'oublie qu'il y a eu un grand précurseur en la présence d'un médecin sud-africain qui avait un nom de bande dessinée, Smuts, S-M-U-T-S, Smuts, Jean-Christophe Smuts, qui a inventé la médecine qui aujourd'hui est très, très, très bien connue dans les pays anglo-saxons et bien en France. C'est tout ce qui va considérer l'être humain, non non pas comme une succession d'organes, mais une entité, une totalité. Alors, cette médecine, peut-être que vous en avez un petit nom, parce qu'il y a des. Enfin, vous avez le nom en tête, holistique. Le holisme. C'est qui le holisme, H-O, bien sûr. Holisme, et les activités, les médecines, etc., ça s'appelle holistique. Il y a de la dentisterie holistique. Il y a de la vertébrothérapie ou de l'ostéopathie holistique. Quand on est dans le holisme, on est dans le rapport entre le tout, la totalité, et l'individu. Entre le macrocosme et le microcosme. Et ce type-là, Smuts, a inventé tout ça, en tant que médecin. Le seul défaut de Smuts, c'est qu'en France, on le connaît pas, et peu, et quand on en parle, on se fait attaquer. Une fois, j'ai présenté Smuts à des directeurs de la communication, j'ai eu une réaction très violente, parce que j'ai eu l'honnêteté de leur dire, il y a juste un petit détail qui peut être perturbant pour Smuts, c'est qu'il a aussi été Premier ministre de l'Afrique du Sud. Et si ça se passait bien avant la Première Guerre mondiale, c'est juste un tout petit peu depuis l'apartheid, non? Donc ça suffit à déconsidérer ce gars-là. Premier ministre d'Afrique du Sud, c'est donc un sale raciste. Terminé. Vous voyez? Bon, alors je vous dis, Smuts, si vous cherchez, vous vérifierez facilement, il a été Premier ministre de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, tout ce que ça voulait dire, bien sûr, du racisme. Voilà. Ce qui fait qu'on a tendance à ramener Smuts à ça, alors qu'il a aussi inventé le holisme, et je pense que la partie... holisme holistique et autrement plus intéressante, même si c'était pas bien d'être. Voilà. Alors, on termine avec cette question. Beaucoup de tenants de l'école classique, comme de l'école moderne d'ailleurs, ont tendance à opposer les deux systèmes en disant, et on retrouve notre vieux truc, c'est bien, c'est pas bien, c'est blanc, c'est noir, etc. Vous voyez ? Donc, est-ce qu'il y a opposition ?
La réponse, c'est bien sûr que non. Il y a forcément complémentarité. Exactement, je crois vous l'avoir dit, comme Einstein, la relativité d'Einstein englobe la mécanique newtonienne comme un cas particulier. C'est-à-dire que la systémique considère que tout ça, ça reste tout à fait valable dans les univers dans lesquels on peut l'observer, c'est tout. C'est-à-dire que quand vous avez peu de variables, que vos variables ne sont pas en interdépendance les unes avec les autres. En physique, on a bien les variables qui sont indépendantes. Hein ? La masse et la vitesse, c'est pas vraiment dépendant. Ok ? Donc, quand vos variables sont interdépendantes et antinombres, vous êtes dans l'univers cartésien. Ça marche. Si au contraire, vous avez des variables en très grand nombre et que ces variables sont en plus en interdépendance les unes avec les autres, eh bien, vous êtes dans l'univers systémique. Et il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas ça. Tout à fait graduel d'un univers conceptuel à un autre. Ce qui veut dire enfin que dans un mémoire, est-ce qu'il faut faire un choix comme celui d'entrer dans les ordres, en disant je rentre dans les ordres, après c'est fini. Donc je choisis ma voie, je suis soit ici, soit là. Vous pouvez, hein, bien sûr, si c'est comme ça que vous voyez le monde, aucun problème. Mais on peut très bien dire au contraire qu'on va peut-être utiliser pour certaines hypothèses les approches. Les approches qu'on va appeler cartésiennes déterministes et ici les approches systémiques. On n'est pas du tout obligé de faire un choix radical entre les deux. Très bien, voir ça de façon très très souple, très libre et très pragmatique.
Voilà donc le choix que vous avez à faire pour un mémoire. Alors, peut-être que vous dites c'est un peu loin d'un sujet.
C'est pas si loin que ça. Prenons la presse d'entreprise. Si je suis dans le déterminisme, la presse d'entreprise, c'est la voix du patron. Ou pour la presse territoriale, c'est la voix du maire. Ou du président de tout le monde. Déterministe. C'est la voix du patron, du chef, et puis c'est tout. Et donc la presse est faite pour ça. Et c'est bien ce qu'on a dit pendant des années. Il y a eu des tas d'articles pour montrer, ouais, c'est la voix du patron, la voix de son maître, etc. Est-ce que c'est toujours comme ça? Bon, c'est bien sûr que non. Il y a des tas de travaux, y compris de mémoire, ici depuis des années, qui montrent que c'est un peu plus compliqué que ça. Et que dans ces journaux de presse interne, il peut y avoir, au contraire, beaucoup de liberté. exemple facile, et après on pourrait décomposer, hein, on peut aller encore plus loin pour voir si dans la presse d'entreprise, tel type de sujet, il est déterministe ou pas, etc. Et ça donne lieu à faire des tas et des tas de mémoires. Voilà, donc vous, bah, votre boulot, c'est de réfléchir à ça, déjà là maintenant, à vide,
et puis après de l'appliquer quand vous ferez votre propre mémoire, bien sûr. Alors, dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est la question du choix. Voilà. Donc, le choix d'un positionnement. On va terminer avec le choix d'un positionnement. Finir tout ce chapitre. Alors, sur ce petit schéma, j'ai essayé de faire visualiser le positionnement de quelqu'un. Ça peut être vous, mais ça serait A, B, C, n'importe qui. J'ai d'abord sélectionné quelques variables de positionnement. Certaines qu'on a vues ensemble, d'autres qui sont implicites. Première variable que j'ai positionnée, les contraintes institutionnelles. On l'a vu il y a quelques minutes. Deuxième variable, l'ambition personnelle. On l'a vu la semaine dernière. Le choix du directeur de recherche, de sa personnalité. On l'a vu il y a quelques minutes aussi. L'orientation épistémologique. On vient de l'avoir. Donc, les quatre variables qui sont là, nous les connaissons, soit d'aujourd'hui ou la semaine dernière. À ces quatre variables, j'ai associé sur un axe une échelle de notation allant de faible à fort. Cette représentation-là, sur un axe horizontal, on peut le mettre aussi vertical si on veut, pas très grave. Sur l'axe horizontal, peut-être que vous connaissez, voilà un outil formidable inventé par un psychologue. C'est un bel outil d'investigation et de représentation. Ce psychologue s'appelait Osgood, O-S-G-2-O-D. Et ça donne, son nom de ça, c'est le différentiel sémantique d'Osgood. Différentiel sémantique d'Osgood. C'est très puissant comme idée parce que regardez ce que ça va vous donner tout de suite. On va dire que l'étudiant A, contrainte institutionnelle, il est dans un cursus, elles sont légères. Ça peut être ici, c'est le master. Ça peut être très fort ailleurs. Si vous allez à Grenoble, par exemple, pour dire ça comme ça, à Grenoble, ils ont grand labo, et là-bas, les contraintes, elles seront là, parce que vous serez obligé de faire des sujets qui sont dans l'ordre du labo, dans la logique du labo, avec les problématiques, les thématiques, les bibliographies, etc. Bien. Ambition personnelle. A, mettons qu'il est... Il a l'ambition. Il n'est pas super ambitieux, mais il a envie de se faire un mémoire. Il s'éclate un peu, quoi. Bon. Directeur de recherche. Il a envie d'être très, très indépendant, d'être très autonome, et donc de peu solliciter son directeur de recherche. Ou il veut en choisir un dont il sait qu'il ne sera pas disponible. Ce ne sera pas le directeur nounours. Nounou, comme on a dit tout à l'heure, gentil nounou, ce sera le directeur un peu lointain, pas disponible. Bon, très bien. Et il a, entre les deux, il va dire mon cœur balance. Donc je serai un petit peu entre... Alors j'ai marqué quantitatif ici, parce que souvent, on l'appelle quanti. Ici, on l'appelle quali. Ce sont des semi-homonymes. Ce qui est prédictif, c'est forcément quantitatif, dans la logique des choses, puisque je vous ai dit d'où venaient les modèles, c'est la cinétique des gaz 19e. Donc c'est plutôt quanti. Et cet étudiant-là, vous voyez où il est. Bon, très bien. On va voir B. B... C'est pareil, normal, ils sont dans le même cursus. C'est deux à Saint-Étienne, c'est pas Grenoble et Saint-Étienne. Hein, bon. Ambition perso, B, il en met plus. C'est-à-dire qu'il a envie de s'éclater encore plus que A. Mettons que A, il vise 14, 15. C'est ça. Cool. B, il vise 16, 17. Directeur de recherche, peut-être que ceci dépend de cela. Il se dit, il faudra peut-être que je me fasse un peu plus aider pour y parvenir. Ou peut-être qu'il est moins rassuré, etc. Orientation épistémologique, c'est quelqu'un qui a été très séduit par le côté systémique et donc qui a plutôt envie de faire un travail d'orientation systémique sans pour autant être exclusivement systémique. Intérêt de ce travail, alors 1, ça vous a appris le différentiel sémantique d'Osgood. 2, ça vous a appris à réfléchir en termes de variables et d'en sélectionner combien ? 4. 3, ça vous offre une visualisation immédiate de la liberté interprétative de ce genre de situation. Parce que j'ai pris que deux exemples, évidemment, qu'après A et B, il y a C, etc. Et puis il y a vous. Et vous, en ce moment, vous êtes en train de vous dire, bah voilà, moi, vous êtes tous ici. Hein. Alors certains se disent, oh, bah moi, j'ai pas envie de trop me fouler, hein, je vais être là. Ou là, je ne sais rien, moi. Ou j'ai envie de m'éclater dans un malade, je vais être là. Directeur de recherche, bah je ne sais pas, vous êtes peut-être ici ou bien là. Et l'orientation épistémologique, bah je connais bien les outils statistiques, que je connais Modalisa à fond, etc. J'ai envie de faire du quanti, je vais plutôt être de ce côté-ci ou de ce côté-là. Question que je pose maintenant, est-ce que ça, c'est meilleur que ça ou réciproquement? Vous sentez que c'est une question qui n'a pas de sens. C'est ça qui est chouette. C'est que vous voyez qu'à cette question, est-ce que ceci est mieux que cela, on est trop souvent dans le jugement. Ça n'a pas de sens. Si ceci produit un bon mémoire, eh ben, il a pris la bonne voie pour faire un bon mémoire. Et puis voilà. Sauf qu'il y a un problème. Votre GPS, pour faire ça comme ça, vous ne pouvez pas passer par le même endroit. Et alors? Bon. Impressionnant le différentiel sémantique. Hein. Je vous recommande, dans vos travaux, mémoire évidemment, mais d'autres, de recourir à cette représentation. Et d'ailleurs, les gens des questionnaires, après des années de maintenant, il y a des questionnaires qui sont présentés sous forme. Ça s'appelle, après questionnaire, on ne dit pas différentiel sémantique, on appelle ça indice d'agrément. On vous demande, on vous met une question ici, puis on vous met tout à fait d'accord, et ça donne beaucoup plus de souplesse que de le remplir comme ça, soit au stylo, soit sur écran d'ordinateur, bien sûr. Bon. Alors, je vais empiéter juste de quelques minutes pour finir mon chapitre, mais à peine. Alors, est-ce que vous connaissez ça? Si vous arrivez à lire, enfin, si vous dites quelque chose, peut-être. Ce matin, j'ai parlé des précieuses, ridicules, ou des femmes savantes, que Molière a raillées, peut-être un peu méchamment. Eh bien, ça, c'est... Ah, mais c'est ça. De tendre. Tendre, la tendresse, avec la T majuscule. La carte de tendre, c'est une carte, c'est absolument génial, qui a été faite par une précieuse, qui n'était pas si ridicule, mademoiselle de Scudéry. Ouais, dont Molière se moque. Ah, votre sagesse est assoupie d'avoir en un jour été vaincue par votre plus cruel ennemi. Et donc, Molière se moque de cette mademoiselle de Scudéry comme des autres précieuses. Bon, parce que c'était marrant de se moquer des précieuses, qui étaient sûrement précieuses, mais qui avaient oublié d'être bêtes. Ça, par contre, hein, elle était sûrement précieuse par le langage un peu ridicule à certains moments que Molière s'amuse à bien dénoncer, mais c'était d'une finesse d'esprit. Et aidée d'un abbé, alors ça vous fera sûrement sourire, parce que mademoiselle de Scudéry s'est fait aider d'un abbé pour une bonne mœur. Aidé d'un abbé, pour mieux faire comprendre son roman, qui est un roman à clé, un grand roman sur l'amour courtois, la conquête, la séduction amoureuse, etc., elle a fait une carte. Et dans cette carte, qui est d'une finesse interprétative exceptionnelle, elle dit que dans les relations amoureuses, dans les conquêtes amoureuses, il faut se méfier du lac d'indifférence. Ça, c'est Racine, rappelez-vous. Mieux vaut la haine que l'indifférence. Si vous n'êtes pas dans l'amour, il vaut mieux susciter la haine, au moins, c'est quelque chose, alors que l'indifférence, vous n'êtes rien, vous n'existez pas. Donc le lac d'indifférence, vous allez vous y noyer. Et puis vous avez là-dedans, bah, toutes les passions. J'y retrouverai aussi la grande romancière anglaise, Jane Austen, Orgueil et préjugés. Vous avez tout ça qui est dedans, et le propre du roman, c'est de montrer que pour aller dans la nouvelle conquête amoureuse là-haut, il faut traverser une mer dangereuse avec plein, etc. Et que vous avez orgueil, préjugés, passion, etc. Billet doux, là il y a billet doux, c'est pas facile à lire. Bon, donc vous avez quelque chose d'extraordinairement intelligent pour la conquête amoureuse. Alors je suis pas là pour vous faire un cours de conquête amoureuse, hein, c'est pas mon but, vous avez compris, merci. Alors on passe de... Mais je l'ai montré parce que c'est là que j'ai piqué l'idée. Quand j'avais vu ça, j'étais au collège, hein, je me suis dit c'est génial ce truc, mais j'avais jamais oublié. Ne jamais oublier ce qu'on apprend au collège. Ben voilà ce que j'ai fait, moi, qui ne suis pas mademoiselle de Scudéry, ça devait remarquer, et je me suis dit, je vais prendre cette structure, tellement elle est géniale, pour essayer de se dire, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas l'adapter? Mon truc, c'est de dire, je suis parti pour une nouvelle recherche, pas pour un nouvel amour, hein, c'est pas le but du jeu, donc nouvelle recherche, T Terre inconnue, là j'ai mis la découverte scientifique, bien sûr, plutôt que du nouvel amour. J'ai toujours mis une mer dangereuse, avec plein d'îlots, de récifs, etc. Il y a toujours la rivière au milieu. Et comme Mademoiselle de Scudéry dit qu'il faut passer par le village ceci, cela ou autre chose, ben moi je vous dis que vous allez passer ou pas par les villages qui sont ici. C'est-à-dire que pour pouvoir produire une recherche, le côté droit, de la berge à droite, c'est tout le côté systémique, avec la phénoménologie dont je n'ai pas encore parlé, le constructivisme dont je n'ai pas parlé, problématique émergente dont je n'ai pas parlé, l'induction dont je n'ai pas parlé, scénario type dont j'en ai parlé, profil type, combinatoire d'hypothèses, imagination, afférent, je n'ai pas parlé, paramètres, etc. Donc vous avez tout ça sur la rive droite. Sur la rive gauche, vous avez aussi paramètres variables, mais vous avez hypothético-déductivité, démonstration, déduction, cartésianisme. Et la question, c'est de se dire qu'un itinéraire de recherche, ça consiste à se dire soit je suis complètement sur la voie systémique, why not ? Soit je suis complètement sur la voie cartésienne, why not ? Soit, comme Mademoiselle de Scudéry dit, eh bien, je vais chercher mes variables ici, puis après, ben, je vais faire un petit peu d'hypothético-déductivité, de démonstration. Attention à la spéculation. Je passe sur les profils types, attention à l'empirie. Hein, l'empirie en science, on y reviendra. C'est très dangereux. Le raisonnement empirique, vous voyez ce que c'est, le raisonnement empirique ? Tel bureau de vente de tickets de la Française des Jeux, ben vous affichez, ici a été gagné le gros lot de, je ne sais pas quoi, un truc, 5 millions d'euros a été gagné là-bas, là. Là-bas, on en a gagné, alors ben, moi, si j'y vais, je vais essayer de gagner. D'accord. J'ai gagné par la folie, je ne sais pas quoi. En tout cas, dans cette voie empirique, on est non scientifique. C'est pourquoi je vous dis, le lac d'empirie, vous risquez de vous y perdre comme le lac d'indifférence. Vous voyez, c'est ce qui est formidable quand j'ai fait ce travail, c'est que ça correspond. Et le modèle inventé par Scudéry est absolument extraordinaire de clairvoyance. Et là, vous retrouvez la même chose, et vous, votre boulot, bah, ça va être ça, c'est de dire, paf, paf, je fais ça, je fais ça. Certains vont faire sans arrêt. Ça veut dire quoi, par exemple ? L'hypothèse 1, elle va être faite sur le côté gauche. L'hypothèse 2, le côté droit. L'hypothèse 3, le côté gauche, et là, et voilà. Ou je vais faire mes trois hypothèses ici, 2 et 1. C'est ça, votre truc. Et c'est, comme dit Scudéry, il n'y a que vous, en fonction de la découverte, qui allez trouver le bon itinéraire. L'empirie d'un côté et la spéculation, ben si on spécule, on tourne en rond, on les débouche, on ne saura rien du tout. Donc il ne faut pas spéculer, il ne faut pas être trop dans l'empirie. Ouais. C'est beau, non ? Pour ça, je me suis bien amusé à reprendre cette carte de temps et dire ça peut marcher pour la recherche. Et ça a une autre fonction, c'est un outil antidogmatique. Ça aussi, peut-être, le principal truc, c'est que c'est antidogmatique. On a tellement de gens qui sont dans le dogmatisme. La pensée, c'est comme ça. La science, c'est ça. L'infocom, c'est comme ça. Et machin. Bon. Il me semble qu'on a connu en France, en Europe et en France, des gens qui nous ont dit que c'était la science, hein, rappelez-vous. Je crois bien que ça s'appelait même l'inquisition. Hein. Hein ? Je crois bien. N'est-ce pas ? Bon, bah, peut-être que l'inquisition, on pourrait dire qu'elle est finie, non, ça y est. Malheureusement, elle est toujours un peu dans les esprits, parce qu'on a tendance à considérer qu'elle les approche, c'est pas la mienne, donc c'est pas bon. Alors que la science, elle est multiforme, protéiforme, et qu'elle doit sans cesse évoluer. Voilà, bon, j'arrête là. Hein. Il restera juste un tout petit truc que je vous montrerai, mais une fois Excel, alors je vais pas le faire maintenant. On en reste sur la carte de Mademoiselle de Scudéry. Si vous voulez la retrouver, c'est facile. Hein. Vous pouvez le trouver très facilement sur le net. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'elle m'a répondu ?
Je vais savoir si vous avez...
celui qui a de la tour. Là, vous traversez. Vous cherchez, vous allez tout au fond, vous montez au troisième étage, secrétariat. Et là. Oui, c'est ça, juste en face. Ça s'appelait avant le CIT. Centre informatique technique. Ça a changé de nom, mais bon. Donc, dans ce CIT, il y a des salles libre-service sur les étudiants. Et là, ben, on vous met sur. Ils ont des salles PC, ils ont une salle Mac, et il y a des salles
libre-service.
Ah, c'est tout, oui, c'est du libre-service. Alors après, vous verrez, peut-être que vous pouvez faire des réservations par la net. Mais voilà, oui, ça marche bah, depuis toujours, ça marche bien. Allez-y, je crois que c'est au troisième étage au secrétariat.